Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast, je vous propose de découvrir la ZEP, acronyme de Zone d'Expression Prioritaire, une association et un média que vont nous présenter mes deux invités.
Qu'est-ce qui fait le sel et la saveur d'un témoignage de la ZEP ? C'est le champ lexical, c'est sa personnalité, c'est-à-dire que ce texte sera écrit d'une certaine façon parce qu'il est incarné par quelqu'un qui est concerné par ce texte.
Bonjour Emmanuel Vaillant.
Bonjour Steve.
Tu es journaliste, auteur et directeur de la ZEP. À tes côtés, Édouard Zambeau. Salut Édouard.
Salut Steven.
Journaliste, réalisateur, écrivain, 15 ans sur les antennes du service public, RFI notamment avec l'émission Microscopie et France Inter avec Périphérie. Tu es directeur de la rédaction de la ZEP. Alors la ZEP, c'est une association que vous avez cofondée en 2015 et ce sont deux choses intimement liées. Un média, donc des productions à retrouver sur zep.media, et puis un dispositif d'accompagnement à l'expression des jeunes de 14 à 28 ans via des ateliers d'expression et de création de médias encadrés par des journalistes professionnels. Pourquoi cette dimension média-école ?
Nous, notre point de départ, c'est de dire aux jeunes en général, mais on rencontre aussi des gens plus âgés, vous avez quelque chose à dire, nous allons vous aider à le faire. Et donc, nous vous apportons une sorte de technicité, de technique d'écriture journalistique, de technique radiophonique maintenant, puisqu'on développe le podcast. Et nous allons essayer de porter votre parole le plus loin possible. Donc, évidemment, on a créé un média, zep.media, qui est notre média, reconnu par la commission des journalistes, un média au sens strict. Mais aussi, on a élaboré beaucoup de partenariats avec des médias nationaux, le journal Libération, le HuffPost, Combini, Ouest France, beaucoup de grands titres de la presse qui se font une joie d'accueillir ces témoignages.
Comment se passe la maïeutique dans ces ateliers ? Comment est-ce qu'on fait accoucher justement les jeunes de témoignages ?
Ben justement, c'est tout le dispositif, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit la plupart du temps qu'on est face à des jeunes qui, a priori, sont plutôt assez cadenassés dans leur capacité à se raconter, non pas à donner leur opinion, mais ça, on s'y intéresse assez peu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on rentre dans du récit très argumenté, très précis des réalités qu'ils vivent, des expériences de vie qui font écho au plus grand nombre. C'est-à-dire que notre mantra, si je puis dire, c'est la petite histoire qui raconte la grande. C'est-à-dire que comment partir d'une histoire très individuelle, très particulière, et lui montrer que cette histoire, elle fait sens pour les autres, elle raconte une histoire qui est plus grande qu'eux. Et donc, on a tout un dispositif qu'on a élaboré et qu'on a expérimenté au fil des années, qui passe par des jeux d'écriture, de mise en confiance, parce qu'on est, encore une fois face à des jeunes qui souvent nous disent « je n'ai rien à dire ». Et c'est souvent pour la première fois qu'ils se trouvent face à des journalistes qui leur disent « tu as une histoire intéressante à raconter ». Donc on a tout un travail déjà de poser une base de confiance pour dire « on est à ton écoute et on va t'aider à tirer le fil d'une narration ». Et tout le travail des ateliers qui, ça se fait jamais en une seule séance. On atteint
un process de 5 séances de 2 heures
où on voit un même groupe et au fil des séances, on est plutôt sur un travail de plus en plus individualisé à la table où on est avec les jeunes pour lui trouver en fait un angle, pour l'aider à affiner son argumentation, pour poser des mots sur des réalités qu'il veut décrire. Donc on lui tend des perches et il y a aussi effectivement une maïeutique au sens où du questionnement va émaner un récit argumenté et précis.
Édouard Zambeau, j'ai trouvé sur le site de zep.media l'expression « écriture chorale ». Que veut dire écriture chorale, justement ?
Mais ça rejoint justement ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que nous, notre enjeu, notre objet journalistique, c'est d'essayer de faire raconter l'époque par les gens qui la vivent. Un texte réussi à la ZEP, c'est un texte très intime qui tend à l'universel. La juxtaposition de tous ces récits, ce qu'on a fait par exemple avec un livre qu'on a publié au mois d'octobre, c'est 160 textes individuels, mais qui donnent, on l'a sous-titré « Autoportrait de la France des périphéries », qui donnent, à mon avis, à notre avis, une vision... tachiste presque, j'ai envie de dire, par petites touches de la réalité sociale de ce pays, enfin des réalités sociales de ce pays.
Par les jeunes, mais pour tous. Et pas seulement pour les jeunes.
Ah oui, non, l'objet n'est pas de faire un média des jeunes pour les jeunes, on serait trop vieux pour le faire aujourd'hui, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais justement, c'est de permettre aux jeunes de se raconter à tout le monde, et c'est pour ça qu'on privilégie des partenariats avec des médias dits grand public, de se raconter à l'ensemble de la population tel qu'ils se voient, ou tel qu'ils sont, ou tel qu'ils veulent être, et de leur permettre de se raconter dans un mouvement, c'est-à-dire de ne pas figer les personnages dans une situation qui est en général la situation sociale pour laquelle les médias vont les voir. Tu es SDF, je viens de voir, donc on ne va parler que du fait que tu sois SDF. Tu es jeune, donc on ne va parler que du fait que tu sois jeune. Tu es un jeune de quartier, donc on ne va parler que de ça. Et donc, nous, on ouvre la porte au début des ateliers avec une première question qui est évidemment très générale, mais on les interroge sur de quoi voudrais-tu parler ? Une fois qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient rien à dire et qu'on leur a dit que si, ils avaient plein de choses à dire, mais ça, c'est le préalable. Mais après, de quoi as-tu envie de parler ? Et c'est ça le point de départ.
Il n'y a évidemment pas de rubrique comme dans un média traditionnel, mais les thématiques sont très très variées. Orientation, emploi, vie amoureuse, engagement, logement. Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale dans tout cela ?
La colonne vertébrale, c'est eux qui la construisent, c'est-à-dire que ce sont des récits très intimes, a priori, mais ce sont pas des récits de vie, c'est-à-dire que c'est des récits qui viennent de leur expérience, mais c'est des récits qui, encore une fois, vont raconter quelque chose que vivre d'autres. Si une jeune femme nous raconte, par exemple, le harcèlement de rue dont elle est victime, c'est évidemment un vécu très personnel, mais ce qui nous intéresse, c'est en quoi ce récit du parcours qu'elle va faire de chez elle jusqu'à son lycée, de ce qu'elle entend et de ce qu'elle subit, raconte une réalité de ce que vivent les jeunes femmes. Si quelqu'un nous raconte son frigidaire, ça raconte sa manière de vivre, son rapport, ses problématiques d'argent, ses problématiques sociales, mais on reste cantonné sur le frigidaire. Et on s'interdit rien de ce point de vue-là de rentrer de la micro-narration, quoi. Et encore une fois, qui fait sens, quoi, qui nous raconte des réalités qui sont plus grandes qu'eux.
Édouard Zambo, quel est le plus difficile justement dans cet accompagnement ? Est-ce que c'est d'aider les jeunes que vous avez en face de vous à choisir les mots, ou est-ce que c'est de tout simplement d'oser prendre la parole ?
Il faut évidemment réassurer d'abord, et ça passe aussi d'abord par regagner la confiance, une confiance qui est très abîmée, pour ne pas dire plus, de la population générale à l'égard des journalistes. Et puis ensuite, il faut choisir les mots, mais c'est tout le paradoxe, c'est toute la ligne de crête d'une entreprise comme la Zone Expression Prioritaire. C'est comment est-ce qu'on arrive à choisir des mots, à proposer des mots sans dénaturer un propos ? Qu'est-ce qui fait le sel et la saveur d'un témoignage de la ZEP ? C'est le champ lexical, c'est sa personnalité, c'est-à-dire que ce texte sera écrit d'une certaine façon parce qu'il est incarné par quelqu'un qui est concerné par ce texte. Et donc, il faut surtout faire attention à ne pas normaliser l'écriture, à ne pas avoir des techniques d'écriture journalistique. On n'a aucune intention de se transformer en organisme de formation, de fabriquer des bébés journalistes. Ce à quoi on veut donner de la valeur, c'est le témoignage. Tu es légitime à nous raconter quelque chose d'intéressant. Et ce quelque chose dit sur l'époque que nous traversons, l'environnement géographique dans lequel tu vis, l'âge que tu as, un certain nombre de choses qui sont parfois éloignées. Et si tu les racontes à la première personne, ça prend cette valeur. À la première personne, avec tes mots, mais avec des techniques d'écriture qui vont faire qu'on va essayer de structurer cette narration pour qu'elle ait la forme la plus proche d'un article journalistique.
Et votre dispositif est reconnu, d'ailleurs, votre démarche est reconnue, puisqu'elle remporte des prix, je vais en mentionner quelques-uns. La France s'engage en 2015, le prix de l'éducation aux médias des Assises internationales du journalisme en 2016. Ça, c'était important pour vous aussi, la reconnaissance de la profession.
Oui.
En 2021, le grand prix sociétal de la Fondation Charles de Forêt, Institut de France, avec une dotation importante pour vous, 150 000 euros. Expliquez-nous ce qu'on fait avec 150 000 euros pour une association comme la vôtre.
C'est très simple. On a une équipe de 7 salariés. On a une vingtaine de journalistes, un pigiste qu'on fait travailler pour animer les ateliers. On paye tout le monde. On ne croit pas du tout au bénévolat parce que c'est un travail assez complexe d'animation des ateliers, d'animation et de suivi et d'accompagnement jusqu'à l'édition des textes.
Donc, il faut donner de soi.
Il faut donner de soi et puis il faut aussi avoir une compétence technique ou une compétence journalistique, d'être capable de comprendre un récit, d'avoir un petit temps d'avance même sur le récit qui va émerger pour comprendre un peu vers quoi on peut l'accompagner. Aujourd'hui, on accompagne plus d'un millier de jeunes chaque année. On mène plus de 600 ateliers, on a une soixantaine de partenaires. Donc on est dans un déploiement qui est assez important. On se diversifie, on va peut-être en parler sur le podcast et la vidéo. On a effectivement une croissance importante et une attente assez forte d'un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille, qui renouvellent et qui, je crois, ont compris, donc des collèges, lycées, missions locales, un peu de l'enseignement supérieur, des associations, des prisons, des hôpitaux, bref, une très grande diversité de partenaires qui sont dans une attente assez forte par rapport à ce qu'on leur propose, parce qu'ils ont compris qu'on répond à un besoin de se raconter. Et on voit souvent quand on rentre dans les groupes face à des jeunes qui justement se sentent totalement cadenassés et donc ils voient bien l'impact que ça peut avoir, que de poser des mots sur une histoire qui est parfois un peu complexe, parce qu'on fait émerger aussi des histoires un peu compliquées, on fait du coup, ça, pour la première fois, quelquefois, des histoires émergent comme ça. Et donc, on a de ce point de vue-là, au-delà de la démarche médiatique, une responsabilité sociale par rapport à ces jeunes.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI, je suis avec Emmanuel Vaillant et Édouard Zambeau. Nous parlons de la ZEP qu'ils ont cofondée, zone d'expression prioritaire. Édouard Zambeau, depuis le 1er juin, la ZEP a fait sa mue, un nouveau site, des nouvelles propositions éditoriales et notamment du podcast. Vous en faisiez déjà, mais vous avez envie d'accentuer et de continuer sur le podcast. Le podcast qui donne à entendre les voix avec des hésitations et le langage en fait des habitants des quartiers populaires.
Oui, alors des habitants des quartiers populaires, pas que, on va dire des jeunesses. Effectivement, c'était un truc autour duquel on tourne depuis longtemps et avec une difficulté supplémentaire parce que la posture éditoriale de la ZEP, c'est d'amener des gens à s'exprimer d'une manière qu'ils assument. Nous prenons le temps de l'élaboration. Alors, autant pour un texte, c'est très facile parce qu'on arrive à la version finale, à la version définitive d'un texte qui est validée par son auteur et qui nous dit « je vous donne l'autorisation de le publier ». Pour la radio se pose un autre problème, c'est-à-dire que la radio, c'est par essence un média beaucoup plus instantané et qu'il ne s'agit pas de faire un podcast de lecture. On ne va pas enregistrer des textes et les mettre à la lecture. Mais on ne veut pas non plus renoncer à notre pari éditorial qui est d'apporter sur la place publique des éléments de réflexion des jeunes auxquels ils ont eu le temps de réfléchir. Donc les deux écueils, c'était effectivement soit de sombrer d'un côté lecture, soit de sombrer d'un côté, enfin de sombrer, de s'orienter vers un exercice d'interview plus classique. Toute la question et ce sur quoi on a essayé de beaucoup réfléchir, pour le résumer assez vite, c'est comment est-ce que dans un processus d'écriture, on peut arriver à fabriquer des accidents.
Voyons ce que ça donne.
Ma liberté de mouvement, elle se contraint depuis un an au Covid et depuis toujours au regard des hommes. Ça fait un an que je suis privée de mon espace public, mais de ma liberté. Mais je sais que quand tout ça sera fini, les hommes seront encore là et ils vont toujours siffler, regarder et seront toujours là derrière les femmes. Et encore, ça dépend, même quand t'es habillé au Versailles, on va dire, ils trouvent toujours le moyen d'être regardé. Chou, tu vas draguer cette fille là-bas au bout de la rue, va lui demander son snap. Qui t'a dit qu'elle allait te donner son snap? Qui tu veux en fait? Bref. Après, les gens ils ont le droit de demander le numéro de quelqu'un, y'a pas de soucis, mais quand c'est bien fait, pas quand c'est. Tu courses pas une fille de 14 ans en moto dans la rue avec son petit frère. Tu klaxonnes, tu m'appelles, tu crois que je vais courir derrière toi en mode je suis ton chien, mais un minimum de respect. Je suis une femme, je suis pas un jouet. Du coup voilà, je saurais même pas quoi dire sur ça parce que en fait c'est tellement incrusté dans la société que les gens ils trouvent ça normal alors que ça l'est pas. Un combat d'être une fille, c'est dur, c'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Zone d'expression prioritaire.
Du témoignage, Édouard Zambeau. On n'entend pas du tout de paroles de journalistes, ce n'est même pas forcément une conversation, mais ce sont plutôt des paroles mises parfois en parallèle.
Oui, alors il y a un peu de mise en onde, comme on dirait, même en prenant des grands mots. Mais effectivement, mais le processus de fabrication est que on est d'abord passé par des phases écrites. Tous ces textes-là, ils existent à l'écrit. Et ensuite, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait pouvoir essayer de les réoraliser. Donc c'est assez long, parce que d'abord, on passe par une phase d'enregistrer le texte, puis ensuite, entre guillemets, je confisque la feuille. Puis ensuite, on en discute avec les jeunes, où je leur dis « raconte-moi ton texte ». Éventuellement, quand elles oublient des choses qu'elles avaient voulu dire, je les questionne. Et tout le boulot, ben ça, c'est de la technique, encore une fois, de la cuisine, si je puis dire. C'est comment est-ce qu'au final, on arrive à s'effacer. Et c'est l'éthique de la ZEP, c'est de se mettre au service d'eux. On essaye, on souhaite qu'il en soit de même dans les exercices radiophoniques.
L'idée, c'est aussi de faire émerger de nouvelles voix du podcast dans ces publics-là, peut-être ? De leur montrer à la fois comment on l'écrit, mais aussi comment on le produit concrètement, de manière technique.
Alors, il ne faut pas se mentir, la radio est, enfin, vous le savez, un média qui se... Non, mais puis c'est on ne fait pas du montage à 14, quoi. Autant dans une interview, on essaye parfois de mettre un peu en péril, en danger, pousser dans ses retranchements un interlocuteur, autant là, non. On fait un travail préparatoire pour essayer d'amener la personne à en dire le plus possible, mais de manière douce. Et puis ensuite, effectivement, je leur fais écouter le résultat définitif. Et ces deux jeunes filles qu'on vient d'écouter, j'aimerais avoir mon ordinateur pour vous lire les mails qu'elles m'ont envoyés quand je leur ai envoyé, évidemment, en avant-première le module sonore. Globalement, elles étaient stupéfaites, quoi. Elles ne pensaient pas que ça deviendrait ça, pour reprendre la formule du début du mail d'une des deux, de Nour en l'occurrence.
Emmanuel Vaillant, le travail du son, justement, c'est quelque chose sur lequel la ZEP veut monter en puissance, mais aussi le travail de la vidéo dans un monde d'images dans lequel nous sommes. L'idée, après, c'est quoi ? C'est de faire que ces contenus soient viralisés via les plateformes sociales, via Instagram, via Snapchat ?
Oui, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir la diffusion la plus large possible. Mais pour revenir à ce que disait Edouard, ce qui nous intéresse aussi dans le podcast, c'est par rapport au travail strictement écrit, c'est d'apporter aussi une émotion, c'est d'apporter une narration qui crée une sensibilité qu'on n'a pas forcément sur l'écrit. Et donc, ces juxtapositions de voix nous, et de ce dialogue qu'on peut construire en podcast avec ces voix qui se s'entremêlent, créent justement cette émotion qu'on ne trouve pas. Et donc, on vit en texte et en vidéo, on est pour l'instant sur des formats très, très classiques de facecam, mais là aussi, on essaie de donner une voix et de montrer une expression en oralité ou en image qui enrichit un peu le texte. Mais on est sur la vidéo, on a aussi une ambition assez forte, mais le premier pas, c'est déjà le podcast sur lequel on a vraiment envie sur 2021-22, on va dire, de se déployer très, très fortement, effectivement, sur diverses plateformes, avec des formats qu'on va pouvoir proposer au moins une fois par semaine.
Justement, Edouard Zambo, au niveau des formats, c'est d'utiliser les plateformes et de suivre les usages qu'utilisent les jeunesses actuellement dans le pays.
Alors là, c'est vous qui allez pouvoir m'éclairer parce que vous en savez plus que moi sur les usages et les plateformes. Non, enfin, plus modestement et au moins pour commencer, moi j'aimerais qu'on soit capable de faire des formats d'une dizaine de minutes, ce qui me paraît déjà assez ambitieux. C'est une petite écriture documentaire en radio. Au-delà, ça commence à devenir plus compliqué, puis ça nécessite des moyens, etc. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de faire des tout sonores, des modules qui soient livrés à l'écoute des auditeurs, qui leur permettent de se faire leur avis. On n'a pas envie non plus d'arriver avec du sous-texte, de leur permettre simplement un élément de contexte, qui est un petit élément écrit, qui accompagne, et puis écouter. Voilà, écouter le monde tel qu'il se raconte. Et la grâce de la radio, finalement, c'est de pouvoir faire entendre le silence. Et c'est ça la différence entre un module son et ce qu'on a à l'écrit. C'est que tout d'un coup, on a du silence, et ce silence génère effectivement la dimension plus émotive, plus émotionnelle que ce qu'on peut avoir en texte. Et les deux se complètent. Il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre, hein, pas du tout. 80% de la production de la zone d'expression prioritaire reste écrite. Mais d'essayer de rajouter cette corde à notre arc avec une petite compétence qu'on a pu acquérir avant de le faire et d'essayer de mettre ça au service, quoi.
Et sur ce silence, ça permet même de ralentir un peu le récit. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça fait poser l'auditeur. Quoi. Je trouve que ça complète bien le travail qu'on fait en écrit.
De mettre encore plus d'humain, peut-être.
Ouais, ouais.
Emmanuel Vaillant, en 6 ans, la ZEP, j'ai trouvé sur votre site, vous précisez 1700 articles, dont plus de 300 repris dans des médias via des partenariats de publication. Le Monde, Libération, le Washington Post, même un temps, Ouest France, Urbania ou encore Combini. Où en est-on, justement, maintenant ?
On en est à continuer ces partenariats qui sont très forts. Libération, par exemple, qui est un partenaire historique, puisque c'est le premier partenaire qui nous a accompagnés, reste un partenaire très fort avec lequel on travaille chaque mois en publiant une double page. On a comme ça quelques partenaires qui sont L'Œuf-Post, Combini, Ouest France et Urbania sont des partenaires qui s'imposent d'évidence aujourd'hui. Et je crois qu'ils y trouvent aussi beaucoup de sens dans leur même en interne. Les retours qu'on a des rédactions sont hyper enthousiastes. Ça leur permet de travailler des récits qu'ils n'ont pas le temps de faire en interne et ça donne une offre à leurs lecteurs qui les intéresse bien. Nous, on se pose la question de déployer plus. On a pensé, ça reste d'actualité, de voir un peu en région comment on peut déployer d'autres partenariats avec d'autres médias en PQR. On est toujours en fait dans le questionnement de quel déploiement on veut. On est sur RFI, on a discuté avec Edouard, on se pose évidemment la question de la francophonie. Il y a des projets à mettre en place. Urbania, d'une certaine manière, c'est de la francophonie puisque
ça vient du
Québec. Mais pourquoi pas travailler
avec des universités africaines, voilà, c'est le. Et puis évidemment
Dakar, Alger, on pourrait, ouais.
Voilà, enfin, et puis quand on sera au propre, on cherchera un partenariat radio. On viendra vous revoir à ce moment-là.
Avec plaisir. Depuis quelques années, il y a cette vague du journalisme de solutions. L'idée de mettre en avant des initiatives, des choses qui marchent, etc. Pour le grand public en France, quand on parle des quartiers, c'est toujours une image négative, en fait. On utilise toujours des mots, on parle toujours de problèmes. Cette vague du journalisme de solutions, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'instiller, de faire aussi parler des choses qui marchent, des trains qui arrive à l'heure.
Alors on a évidemment, à partir du moment où on fait s'exprimer les jeunes sur des réalités qui vivent, c'est vrai que la première intention est souvent de parler de problématiques plus ou moins lourdes auxquelles ils doivent faire face. On n'est pas dans l'idée d'osciller, de passer d'une image des quartiers populaires dramatiques à essayer de trouver absolument du positif pour contrer une image négative. On laisse pour le coup le champ aux jeunes de nous sortir et nous raconter des récits d'engagement, par exemple, des récits d'initiative. Ça nous intéresse tout autant que des récits de problématiques lourdes.
On est bien content quand il y a une belle histoire qui apparaît. Mais attention.
Mais c'est pas le gros de l'histoire.
Non, mais c'est pas la question du gros. Je veux dire, dès qu'il y a une belle histoire, on lui donne la même importance que quand il y a une histoire lourde. Mais ne remplaçons pas une caricature négative par une caricature positive. Ça n'a pas plus de sens. Finalement, tous les contributeurs de la ZEP sont en quelque sorte des experts d'usage de leur réalité. Ils ne racontent que ce qu'ils vivent. C'est le parti pris éditorial de la ZEP. J'écris sur moi à la première personne. Enfin, j'écris sur ce que je vis à la première personne. Donc, ils sont les experts de leur vie. Ils nous racontent leur vie, parfois de manière enthousiaste, parfois de manière dramatique. Mais attention aux injonctions, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, on ne réparera jamais une stigmatisation négative par un journal des bonnes nouvelles. Enfin, journalistiquement, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, nous ne sommes là pour réhabiliter personne. Nous sommes là pour essayer d'ouvrir un espace. Un espace qui, pour des raisons de format, pour des raisons de page, pour des raisons de coût, trouve assez peu d'écho. Mais finalement, on voit que quand cette production existe, il y a beaucoup de partenaires qui sont ravis de la mettre en avant. Et si les récits qui étaient publiés, édités, accompagnés par la ZEP n'avaient pas d'intérêt, je pense que Libération ne publierait pas une double page tous les mois depuis 6 ans.
Édouard, tu viens de dire ouvrir un espace. On sort en France d'élections régionales. 2022 sera une année d'élections présidentielles en France. Quels enjeux, justement, pour la zone d'expression prioritaire ?
De tenter de faire une place à ces questionnements autour des jeunesses, c'est-à-dire qu'on a un projet, en l'occurrence un projet éditorial pour le printemps 2022. Donc on espère s'inviter dans la campagne électorale sur ces questionnements-là, sur les questions, ceux qui préoccupent et ceux qui questionnent les jeunesses à travers leurs expériences. Et c'est en ça qu'on veut en faire un objet politique.
On est en train concrètement d'arpenter, modestement, mais d'arpenter quand même le territoire français, de constituer des groupes d'écriture, de jeunes à droite et à gauche, pour qu'ils nous racontent un peu les enjeux politiques qui sont les leurs, enfin qu'ils identifient à l'aune de la campagne présidentielle. Et ça sortira en librairie en mars ou avril 2022, donc dans la séquence présidentielle, de la même manière que nous avons sorti les V majuscules au mois d'octobre dernier.
Mais l'idée n'est pas de vous transformer d'une certaine façon en Bondy Blog, mais si on les salue, et d'aller chercher certains des candidats pour les faire les interviewer. C'est pas du tout votre démarche, en fait.
Non, c'est pas l'objet éditorial de la ZEP. Mais le Bondy Blog, et on les salue, et il se trouve que mon chemin est passé par là-bas, puisque j'ai été pendant un peu plus d'un an le rédacteur en chef de cette aventure. Mais le Bondy Blog a aussi une volonté de formation de jeunes journalistes. Ce qui n'est pas notre objet. Nous voulons essayer de permettre à des témoignages qui sont tus, qui n'existent pas, d'éclore. On fait une sorte d'interview, mais on pousse la conscience professionnelle, si je peux me permettre, à coécrire le résultat de cette interview. C'est-à-dire qu'on commence toujours par identifier, par parler avec le jeune, quelle est ta problématique, comment est-ce qu'on peut le raconter, quel serait le champ lexical le plus adapté à ton récit, quels sont les mots auxquels tu fais attention. Et ensuite, on élabore pour que ce récit soit le plus abouti. Mais c'est du témoignage.
Et par ailleurs, j'ajouterais que même si on n'est pas effectivement un organisme de formation, le travail qu'on fait avec le jeune a un impact sur eux. C'est-à-dire qu'on va, on va pas en faire des bébés journalistes ou des jeunes journalistes. Et on l'a même étudié et mesuré, puisqu'on a cherché à comprendre quel est l'impact du travail qu'on fait avec les jeunes. Et on a des résultats très, très enthousiasmants sur le fait que ça leur redonne confiance, que ça leur permet d'acquérir quelques compétences d'expression écrite et orale. Ça leur permet d'avoir une réflexivité. Ça leur permet de mettre à distance parfois des problématiques qui sont un peu lourdes. Ça permet de partager et de comprendre son positionnement dans un espace social. Donc c'est toutes ces sortes d'impacts qui sont bénéfiques pour les jeunes eux-mêmes qui ont participé aux ateliers.
Y a-t-il des jeunes justement à la fin de ces ateliers qui ont envie de se lancer vers les métiers du journalisme, Édouard Zambo?
Oui, ça peut arriver, bien sûr. Mais encore une fois, contrairement au Bondy Blog qui a une philosophie de compagnonnage, si je puis dire, sur le long terme, nous avons une posture d'intervention plus ponctuelle. C'est-à-dire qu'on fait un cycle d'ateliers qui dure 5 séances, en général 10 quand il s'agit de faire de la radio ou de la vidéo. Donc c'est-à-dire 10 semaines, quelques mois, quoi. Et puis ensuite, on a alors parfois des jeunes qui nous donnent des nouvelles ou qui décide de contribuer de manière volontaire ensuite aux médias, mais on n'a pas en projet de monter une prépa ou des choses comme ça pour les écoles de journalisme. Donc oui, mais vous savez, c'est ce genre d'aventure, et je le dis d'autant plus volontiers que les premiers ateliers d'écriture que j'ai initiés, c'était en 1998. Donc il y a maintenant quelques siècles, si je puis dire, que j'ai pu en faire pas mal d'émissions participatives sur cette antenne, que j'ai pu en faire sur d'autres antennes, etc. Et que j'ai le sentiment, avec ce recul, que en fait, ce qu'on essaye d'instiller, c'est une forme de subversion positive, si vous m'excusez l'oxymore. C'est-à-dire qu'on plante un truc, et puis il va germer, mais on ne sait jamais quand. Et j'ai, moi, aujourd'hui, je profite pour saluer Barr McCoy, qui est sur votre antenne. Et bien, Barr McCoy, elle avait participé à un atelier en 1998. Elle est aujourd'hui à France 24. Et quelques années plus tard, Barr était devenue journaliste. Mais elle n'a jamais pris la peine de le formaliser. Et c'est probablement pas que à cause ou grâce à nous. Voilà, c'est simplement dans la construction de son parcours, il y a quelque chose qui fait. Et si on y a modestement contribué, tant mieux.
Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que les médias, justement, en France, au sens large du terme, donnent suffisamment d'espace aux jeunesses françaises dans leur diversité? J'ai un peu la réponse dans la question, hein, évidemment. Non, mais justement, est-ce qu'il y a suffisamment de fenêtres ou alors, ça manque cruellement de place?
Je pense que l'enjeu, encore une fois, c'est pas de faire des médias spécifiques, des jeunes pour les jeunes. Finalement, la jeunesse, c'est un continent perdu, parce que quand on y est, on a l'impression de pas y être, et quand on n'y est plus, voilà. Et donc, c'est de savoir quels sont les espaces dans lesquels les jeunesses peuvent se raconter aux autres aussi, aux autres, aux vieux, aux grands. Et voilà, alors modestement, évidemment, on n'a pas la couverture d'un grand média, mais modestement, on essaye d'ouvrir ça, enfin, au moins d'être un espace où la curiosité peut être satisfaite, pas que des jeunes sur eux-mêmes, même, pas qu'un truc nombriliste, mais de vieux qui auraient envie de savoir ce que pensent les jeunesses.
Et puis, c'est pas que les jeunesses, d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu avec le travail qu'on avait fait, Vie majuscule, où on a travaillé avec des moins jeunes, on s'aperçoit surtout qu'il y a une problématique d'expression de ceux qui se sentent pas légitimes à s'exprimer dans ce pays. Il y a des jeunes qui ont aucun problème d'expression, mais il y a aussi des vieux qui se sentent pas du tout écoutés, entendus, et c'est plutôt ça, au-delà de la question de la jeunesse.
On aimerait bien, à terme, que la zone d'expression prioritaire puisse accompagner à l'écriture, comme on l'a fait pour le livre Vie majuscule, tous les publics qui se sentent un peu éloignés ou empêchés de l'écriture. Moi, j'adorerais demain aller faire des ateliers dans un EHPAD ou aller faire des ateliers comme on le fait de manière pour l'instant épisodique en prison ou comme on l'a fait à l'hôpital. Voilà, mais d'essayer de se diriger vers des gens qui se sentent délégitimés, si vous voulez, sur la scène médiatique et publique, et de leur dire bah, « Tiens, on va essayer de t'armer, en quelque sorte, de t'accompagner pour essayer de porter ta parole telle que tu le souhaites qu'elle existe, le plus loin possible. »
Pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien vous cherchez à agrandir votre équipe, vous cherchez notamment un chargé de contenu numérique. C'est bien cela, Emmanuel Vaillant ?
Tout à fait, on recrute à la ZEP. On recrute à la ZEP, ce qui est bon signe. On cherche à recruter une ou un chargé de contenu numérique, c'est-à-dire qui porterait sur les réseaux notamment les récits, qui les accompagnerait au sens qui construit des objets médiatiques à partager sur les réseaux et qui animerait la communauté.
Le savoir-faire et le faire savoir.
Tout à fait.
C'est parfaitement résumé. Et ça rejoint votre question de tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qu'on va faire des sous que nous a donné l'Institut de France, par exemple.
Merci Edouard Zambeau.
Merci Steven.
Merci Emmanuel Vaillant.
Merci Steven.
Je rappelle, pour lire les productions de votre association ZEP, Zone d'expression prioritaire, ça se passe sur zep.media. À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt.
Au revoir. Merci, au revoir.
Avant de se quitter, comme chaque semaine, place à Mondoblog Audio qui vous fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
Salut, moi c'est Fensou Sergia. J'habite à Antananarivo, à Madagascar. Et mon blog, c'est fensousergia.mondoblog.org. Dans mon biais audio, je vais vous parler de blogging et du plaisir qu'apporte l'écriture. Quand on commence à bloguer, une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'avouer à son entourage qu'on écrit. Cela a été mon cas. Au début, j'écrivais incognito. Je ne voulais surtout pas que mes amis IRL ou sur Facebook lisent mon blog. Pourquoi ? Mais parce qu'écrire, c'est se mettre à nu. C'est dévoiler aux autres une partie de soi qu'ils ne connaissent pas. J'ai pris du temps à sortir de l'ombre. J'avais vraiment peur d'être jugée. Mais il faut dépasser ce stade. Un blog n'est pas un journal intime. On écrit pour être lu. J'ai donc finalement décidé, avec beaucoup d'appréhension, d'en parler autour de moi et de partager le lien de mon blog sur mon mur. Grand a été mon étonnement quand j'ai constaté la réaction de ma famille et de mes amis. Ils me félicitaient, ils partageaient mes articles, ils m'encourageaient à continuer. Quel bonheur de pouvoir partager ce que j'écrivais avec les autres. Cette attention et ces retours positifs, c'est très important quand on écrit, surtout lorsque l'on fait ses premiers pas. Par soutien, comprenez que je ne fais pas allusion à de la démagogie pour avoir des centaines de likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux. Non, je parle d'un soutien qui consiste à vous critiquer sincèrement, avec bienveillance et à vous encourager dans vos moments de doute. Alors on évolue, on progresse. Avec le temps, on se constitue une communauté de lecteurs et on échange avec ceux qui vous laissent des commentaires. Grâce à eux, je me suis sentie moins seule. J'ai commencé à avoir vraiment confiance en moi et dans mon écriture. Aujourd'hui, je n'ai plus le syndrome de l'imposteur qui me pourrissait la vie. J'entends moins ces petites voix qui me disent « Mais qui es-tu pour écrire sur ce sujet ? Es-tu sûr d'avoir toutes les compétences pour aborder ceci ? Es-tu vraiment légitime pour prendre la parole ? C'est important de pouvoir s'exprimer et de le faire en son nom. L'idée de ne pas être assez bon pour mériter d'être lu est un faux problème. C'est un frein qu'on se met à soi-même. Vous serez toujours légitime si vous écrivez vrai. Alors allez-y et vous verrez, c'est un plaisir de bloguer.
C'est C'est la fin de cette émission. Je remercie Simon Decreuse et Sophie Janin qui en ont assuré la réalisation. Camille Deloche était aux manettes de Mondeblog Audio. Si vous avez raté le début de ce programme à la radio, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute en version longue sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.